Ces questions sont les suivantes. 1. Pour quelle raison le jour des événements, c'est-à-dire le 1er avril, 12 lits supplémentaires étaient-ils d'ores et déjà dressés dans le département de chirurgie? 2. Sur l'ordre de qui, ce même jour, des ambulances ont-elles fait la navette entre Pristina et Ferizac et à quelle fin? 3. Et c'est là le point capital, pour quelle raison et de quelle manière le registre des entrées portant la liste des personnes soignées en date du 1er avril a-t-il disparu? De nouveau, le délégué se pencha en avant, en appui sur ses deux mains, comme pour plaquer contre la table quelque chose qu'il voulait lui échapper. « J'attends de vous tous la réponse à ces questions. Mais c'est plus spécialement à vous, docteur Skelly, qu'il appartient de me la donner, » continua-t-il en se tournant vers le chirurgien. « Vous êtes bien responsable du service de chirurgie ?»« En effet, » répondit Madame Shrelly, sans le regarder. Je dirige le service de chirurgie. Eh bien quoi donc? Eh bien donc, je vais vous répondre. Elle se leva et parcourut la salle du regard, cherchant à repérer le chef du service administratif. Pour ce qui est du mouvement des ambulances, le jour auquel vous vous reportez, commença-t-elle, il en a été déjà plusieurs fois question dans la réunion antérieure et tout ce qu'on a dit alors se trouve consigné dans les procès-verbaux. En outre, comme vous devez le savoir, deux chauffeurs ont été licenciés pour manquer à leurs devoirs professionnels. Mais peut-être le chef du service administratif est-il en mesure, lui, de vous en dire davantage ? Fit le délégué. Ainsi donc, vous n'êtes au courant de rien concernant ces ambulances. Il marqua alors une légère pause. Et à propos des lits, reprit-il, je doute que vous osiez nous dire que cette idée d'installer des lits supplémentaires dans le service de chirurgie est l'invention de quelque ivrogne, ou que c'est là un autre de ces abus ordinaires, ou que sais-je. Non, je ne vous dirai pas cela. Pour ce qui est des lits, comme il est apparu dans les précédentes réunions, il existait un projet établi depuis longtemps. On trouverait trace de cela, je pense, dans certains documents. Et d'ailleurs, les journaux, elle chercha des yeux le correspondant du journal Tanyug, les journaux ont souligné plusieurs fois la nécessité de prévoir une augmentation du nombre de lits dans notre hôpital, mesure qui devait témoigner par excellence de l'attention accordée aux problèmes de santé dans la province du Kosovo. Épargnez-nous votre ironie, docteur Skrelly, coupa le délégué. Un médecin ne fait jamais d'ironie sur de tels sujets, monsieur. Poursuivez, poursuivez. Quant à la raison pour laquelle les lits ont été mis en place le 31 mars, soit la veille même de la manifestation sanglante, sincèrement, je ne la connais pas. Les yeux du délégué dans lesquels flottait un sourire narquois restaient rivés sur elle. Leur présence ne vous a pas étonné? Non, je suis habituée à ce genre de choses. Dans les cas d'épidémie, cela se produit couramment. Mais ce n'était pas là un cas d'épidémie, docteur. Je sais bien. Reste que je n'y ai pas prêté attention. Même sans épidémie, en effet, voir des lits en surplus, cela ne frappe pas comme une chose extraordinaire dans un tel service. Vous vous seriez sans doute étonné, vous, de cette modification, mais n'oubliez pas que nous autres, nous vivons dans un décor de lit d'hôpital. Le délégué secoua la tête d'une manière qui voulait dire « cela ne prend pas ». Camarade Skrelly, déclara-t-il, pourquoi biaisez-vous avec de tels sophismes? Vous avez reconnu vous-même avoir soigné des blessés de la manifestation à la date du 1er avril. C'est inexact. répondit-elle. « Je n'ai jamais affirmé une chose pareille. J'ai dit avoir soigné des blessés tout court, et non des manifestants blessés. » »«
C'est la même chose. » »«
Absolument pas. » Mais alors, d'où venaient ces blessés, selon vous? N'avez-vous pas eu la curiosité de demander? Qui sont tous ces gens que l'on amène aujourd'hui?
Non, je n'ai pas eu la curiosité.
Devant sa table d'opération, un chirurgien a des préoccupations plus urgentes que celles de satisfaire sa curiosité.
Tiens donc, parfaitement.
En somme, vous voyez des lits installés en hâte durant la nuit, des mouvements d'ambulance pour le moins suspects, des blessés qui vous arrivent l'un après l'autre, et en dépit de tout cela, vous ne remarquez pas spécialement qu'il se passe des choses inhabituelles. Cela est étrange, vraiment bien étrange, docteur. Une fois de plus, je vous invite à me dire la vérité. N'avez-vous pas songé un instant à vous demander qui sont tous ces blessés qu'on m'amène aujourd'hui ? C'est une chose courante chez nous que de recevoir des blessés en plus ou moins grand nombre. Venez un jour au service des urgences, vous verrez combien il y a d'accidentés.
Ainsi, vous pensiez donc avoir affaire de simples occidentés?
Je n'ai rien pensé du tout. Je me suis efforcée de les sauver.
Ce qui revient à dire que vous avez pensé affaire à des accidentés.
C'est possible, en effet.
Et les balles donc? Serait-ce que vous ne les avez pas vues?
Les balles? Naturellement, je les ai vues.
L'extrait que je vous ai lu est tiré d'un livre d'Ismaël Kadaré, Le cortège de la noce s'est figé dans la glace. Et je crois que Gisèle Essagné, la femme docteur qui est un des protagonistes du passage que j'ai lu, est bien significative de la nouvelle femme qui existe aujourd'hui en Albanie ou en Kosovo.
L'émancipation des femmes, alors c'est... aujourd'hui, c'est assez, comment dire, c'est assez fort. Donc, pendant ces 10 ans, on a fait assez de progrès dans ce côté-là. Donc, on a constaté que la femme albanaise, elle était vraiment intéressée et capable de s'en occuper de tous les genres de sortes de métiers, comme ingénieur, médecin, institutrice, professeur, professeur en université et tout ça. Elle a vraiment montré son capacité dans tous les sens.
Ce qui a fait ce changement, c'est par exemple l'éducation, l'accès à l'école et tout ça.
Voilà, l'éducation et puis un peu de liberté. Donc, on connaît bien la période, l'année 70 et 80. Mais malheureusement, les années de 80, 90, ils ont vu cette ambition.
L'évolution.
L'évolution et tout ça. Et puis, il paraît que c'était très, très dangereux pour eux. Ils ont voulu empêcher, comme par exemple, le nombre d'étudiants de minimiser la moitié. Parce que. La moitié. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont vraiment nombreuses et puis qu'ils sont dangereux pour la gouvernement.
Vous continuez, ça va?
Bon, malheureusement, comme vous le savez, ces derniers temps, alors la vie était tout à fait paralysée. Alors, ça fait mal au cœur quand on voit tous ces optimismes pour la vie et tout ça. Surtout la femme albanaise qu'elle avait vraiment envie d'aller avec le pas des femmes européennes et tout, mais ils ont empêché, ils ont freiné et c'est triste.
Est-ce qu'il est possible, Gisèle, de nous faire un très court résumé de ce qui a mené à la situation politique en Kosovo? Dans le sens que comment et pourquoi ont commencé les affrontements entre Albanais de la Kosovo et les Serbes qui dirigent la République dans laquelle se trouve comprise aujourd'hui la Kosovo?
Oui, donc il faudrait remonter historiquement très loin, ce que je ne peux pas faire ici en quelques minutes. Donc je remonterai simplement à 1913 où la conférence de Londres a décidé du démantèlement de l'Albanie. Et qui a été, l'Albanie a été divisée donc entre ses voisins, donc et le plus grand bénéficiaire en fait a été la Serbie. Puis nous avons eu la création de la Yougoslavie et la Kosovo est restée inclus dans la Serbie. Donc la Yougoslavie est constituée de 6 républiques. La Serbie est l'une d'entre elles, c'est la plus grande des républiques. Elle contient 2 régions autonomes, la Kosovo, la Voïvodine, au nord, de l'autre côté donc. Tito avait promis de son vivant une plus grande liberté en Kosovo, une plus grande autonomie. À la mort de Tito, évidemment, les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est le contraire qui s'est produit. Donc au départ, dans les années 70, on a ouvert l'université de Pristina. Évidemment, c'est très tard d'avoir une université que dans les années 70. Et à partir de là, évidemment, les intellectuels albanais se sont constitués en groupe. Et des idées, disons, de création de république sont nées. Et devant ce danger, les Serbes ont considéré ça comme un danger, ils ont tout de suite freiné l'autonomie de la Kosovo et cela a provoqué des différents affrontements. Nous avons eu par exemple une vague de manifestations et de répression en 1968 déjà, puis un certain calme, mais la situation est devenue de plus en plus mauvaise. Ensuite, en 1981, donc c'est l'histoire qui est relatée dans la nouvelle dont vous venez de nous lire un extrait, nous avons une violente répression des manifestations. Et à partir de la date de 81, la Serbie a voulu remettre le Kosovo au pas, comme elle l'a dit. Et pour ce, elle a commencé à grignoter l'autonomie qui était déjà fortement grignotée depuis 68. Elle l'a restreinte et finalement, il ne reste que le nom. Il ne reste que le nom autonomie, mais il n'y a plus rien derrière. Tout a été repris en main. Et les Albanais n'ont quasiment plus aucun droit à leur culture, aucun droit politique. Vous imaginez. En plus, l'économie est complètement annihilée. Les gens sont tous au chômage. On assiste maintenant à une vague de licenciements arbitraires. Donc, aux problèmes politiques, ethniques, s'ajoute encore le problème économique. Donc, la situation est absolument déplorable actuellement.
Oui, je crois qu'on peut citer quelques-unes des violations graves des droits des habitants de la Kosovo, des habitants albanais de la Kosovo, des amendes ridicules du genre une enfant qui fait le signe de la victoire, qui passe devant un milicien et c'est son père qui doit passer devant les juges. Il y a une grosse amende pour avoir troublé l'ordre public, ça c'est peut-être quelque chose de bénin, mais ça peut être beaucoup plus grave, où on a parlé à un moment donné d'empoisonnement de la population, par exemple, oui. où, par exemple, on remarque que les gens sont écartés de certaines professions où on partage les étudiants albanais des autres étudiants.
L'apartheid, oui. Au niveau des écoles, voilà. Les Albanais peuvent avoir cours que l'après-midi au niveau des collèges et les Serbes le matin. Et comme pour un collège d'environ 1000 élèves, il y a environ 100 Serbes et 900 Albanais, parce que c'est la proportion pour la Kosovo, alors le matin, ils ont toutes les classes, ils se répartissent à 10 élèves par classe et l'après-midi, il y a 100 élèves albanais dans une classe. Mais si on veut entrer dans le problème des violations des droits de l'homme, on s'en sort plus, parce que je me suis amusée un jour à prendre la Déclaration des droits de l'homme et à regarder chaque droit l'un après l'autre, et j'ai pu constater que la moitié de ces droits, et même les droits les plus fondamentaux, les droits d'égalité, de non-discrimination, étaient violés. Et notamment le droit à l'éducation, le droit au travail. Enfin, la majorité des droits de l'homme sont violés quand même en Yougoslavie, il faut le dire, hein.
Alors aujourd'hui, dans cette situation très grave, quelle place prennent les femmes dans la lutte contre cette répression, Sanié?
Bon, on voit l'unanimité du peuple albanais de Kosovo. Donc la femme, elle a participé dans cette lutte de battre avec les hommes à côté. Donc ils sont fait une maintenant ils sont organisés ces derniers temps les mères les sœurs Tiriazi ils font avec les femmes analphabètes donc contre analphabétisme.
Donc c'est des femmes qui se sont engagées pour essayer d'alphabétiser les
femmes
les
albanaises, oui. Ouais. Et puis il y a l'association des femmes albanaises, donc ils sont assez actives.
Elles se battent sur quoi? Quels sont leurs objectifs?
Contre cette occupation de Kosovo, donc ils sont tellement préoccupés avec la situation, ils pensent à son avenir. Ils sont peur, ils sont tous les jours préoccupés de tout ce qui se passe. Chaque jour, qu'est-ce qui arrive? Parce que envoyer les enfants le matin en école et puis rentrer empoisonnée avec la gaz toxique, c'est, pour une mère kosovare, ce n'est pas facile. Alors, il faut la comprendre. Et ils sont au maximum engagés dans cette... Lutte. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que dans une telle situation, les femmes se battent aux côtés des hommes et les hommes se battent aux côtés des femmes? C'est-à-dire que dans une telle situation, les différences entre mes femmes disparaissent d'une certaine façon?
Mais dans cette situation, dans ces derniers temps, la femme albanaise, elle a montré son... Elle était assez courageuse d'être à côté des hommes. Donc, on ne parle plus d'émancipation des femmes. Comme on voit qu'elle est tout de suite engagée dans cette lutte. Donc, elle est capable, elle n'a pas peur, elle est courageuse. Quand on a raison, on a tout.
Et notamment, il faut citer le fait qu'il y a eu, enfin, il y a de nombreuses femmes prisonnières politiques. Ça, il faut quand même des mères de famille. Donc ça, c'est quand même important d'insister là-dessus.
Est-ce que vous avez quelques exemples? Je ne sais pas si vous avez des témoignages sur cette question-là. Dans quelles circonstances des femmes se font arrêter, par exemple? Dans les manifestations?
Dans la même circonstance que les hommes.
C'est-à-dire dans les manifestations
oui,
de rue?
Oui, dans l'organisation de groupes soi-disant subversifs. Enfin, simplement, ça peut être une réunion, ça peut être n'importe quoi. C'est très arbitraire. Il n'y a pas de règles. Les arrestations se font à tous les niveaux.
Là, dans l'extrait que nous avons lu tout à l'heure, on voit que les autorités reprochent à cette femme d'avoir soigné des manifestants. Ça veut donc dire que même dans le quotidien, les Albanais ne peuvent pas se faire soigner au même titre que les autres dans les hôpitaux, je lisais quelque part que la police interrogeait les gens même dans leur lit d'hôpital, etc. Donc il y a vraiment, jusque dans les hôpitaux, une répression très très forte.
Oui, parce que cette nouvelle a été écrite justement après les événements de 81 ans. Où la police avait tiré sur les manifestants. Donc, ce qui est reproché à cette femme, c'est d'avoir fait son devoir de médecin, tout simplement. Et en plus, le fait que la liste des malades a disparu, parce qu'ils prennent les noms des malades, et la liste avait disparu. Et évidemment, c'était des noms albanais, et la police les cherchait pour les mettre en prison. C'est blessé. Et elle refuse de le faire. Donc, ils entravent sa liberté de médecin et de femme, d'être humain. De femmes albanaises, tout simplement.
Alors, malheureusement, le temps nous est monstrueusement compté. Il y aurait encore tellement de choses à dire et je crois qu'on ne veut pas passer sous silence la situation des femmes qui doivent quitter la Kosovo pour venir travailler, par exemple, en Suisse. Je crois qu'elles ont un statut qui ressemble en partie beaucoup à la situation de toutes les femmes immigrées, qui est celle, les trois quarts du temps, de devoir suivre leur mari. Ce n'est pas elles qui décident de partir, elles suivent leur mari. Et elles se retrouvent dans un pays dont elles ne parlent pas la langue et se trouvent souvent très isolées parce que les conditions sont très différentes. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots qu'est-ce qui fait justement les difficultés des femmes kosovares qui viennent émigrer en Suisse? Sanié, vous êtes vous-même une femme immigrée. Est-ce que vous vous souvenez du tout début de votre arrivée en Suisse et vous vous rappelez, il y a 5 ans, quelles difficultés vous avez dû surmonter?
Bien sûr, c'était très très dur au début. J'ai dit avant, en commençant des missions, que je suis venue pour les raisons économiques, mais il y a plusieurs qui viennent pour les raisons politiques aussi. Alors, pour une femme albanaise, kosovare, c'est très très dur à quitter leur pays, leur culture, leur mentalité. Donc, c'est pas évident. Parce que souvent, ils sont, à cause des maris, ils sont obligés de suivre son route, donc ce qu'il décide le mari. Ils sont vraiment obligés de le suivre. Autrement, il n'y a pas d'autre moyen. Rester là-bas sans mari, c'est déjà un problème. Élever les enfants sans avoir le père à côté, et tout, mais venir ici, c'est surtout pour les premières années, c'est très très dur. Donc elles savent pas parler, elle a pas de copine, donc elle a pas une liaison familiale, de proche famille et tout ça, parce que là-bas, c'est en tradition de vivre tous ensemble, près à côté de notre famille et tout.
Comme on en a parlé au début, oui.
Oui, difficultés de la vie. Alors, il y a toujours notre famille qui est prête. Donc, ici, juste pour connaître quelqu'un, pour avoir des amis et tout ça, il faut de temps. Vraiment, on ne peut pas le trouver dans un jour ou deux. Il faut du temps pour apprendre la langue et tout ça. Alors, je comprends que ce n'est pas facile. D'abord parce qu'ils sont très, très attachés, je voudrais citer ça. Ils sont très, très attachés avec sa famille.
Oui, puis il y a une sorte de prise en charge. La femme doit se prendre en charge elle-même, ce qui n'est pas forcément facile. Puisque tant qu'elle est dans la famille, elle est très entourée, elle ne prend pas de décision ou très peu. Et là, elle est face à son mari, elle a des décisions à prendre. Et c'est cette prise en charge qui n'est pas toujours bien vécue. On peut avoir deux phénomènes, ou bien la femme est contente d'être face à son mari et de devenir quelqu'un, et elle prend ça très bien. C'est maintenant beaucoup de femmes intellectuelles de la Kosovo qui émigrent ici, ou qui ont été scolarisées, vivent cette situation de liberté, libéralisation, émancipation. Et il y a le côté inverse, des femmes très fermées et qui viennent des petits villages, et qui là ont vraiment de la peine, n'apprennent pas la langue, restent fermées, restent uniquement dans la maison, s'occupent que de leurs enfants, et souffrent en même temps de cette solitude, et la famille leur manque là. Il y a les deux phénomènes opposés. Mmh.
Vous, Sanié, par exemple, est-ce que depuis 5 ans que vous êtes en Suisse, est-ce que quand même vous y avez découvert un certain bien-être qui ne vous fait pas trop regretter la Kosovo ?
Non, je regrette quand même pas du tout. Bon, je regrette parce que pendant ces 5 ans, je n'ai pas vécu en Kosovo, mais j'ai vécu en Suisse. C'est ça qui, de tout ce qui était passé pendant ces temps, j'ai quand même senti quelque chose de peut-être plus tragique qu'être là-bas.
Être loin.
Mindier. Donc, ça veut dire vécu là-bas les choses, les problèmes et tout ça. Parce que c'était merveilleux, le sacrifice de mineurs qui sont fait la grève et tout ça. Il y avait des moments où vraiment que je me sentais tellement loin de cette actualité et tout, et c'était lourd. Mais l'autre côté, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, pour la langue, j'ai pas appris beaucoup, mais pour ce début...
Vous parlez très très bien, Sanié.
Merci pour les compliments, mais je parle pas bien, mais je me débrouille. Et puis, pour le travail, le système de travail, l'organisation et tout ça. Parce que là-bas, c'est quand même différent. Comme dans tous les pays socialistes, il y a une anarchie. Travailler sans aucune responsabilité et tout ça. Ici, c'est tout à fait autrement. Donc,
depuis Genève, Sanié, est-ce que vous pouvez, vous avez l'impression, faire quelque chose pour la Kosovo, Gisèle aussi, puisque toutes les deux, vous avez été très actives dans l'organisation de cette quinzaine, et nous allons devoir terminer sur ces mots-là. Pourquoi, pour vous, c'est important de faire connaître ce qui se passe en Kosovo, en Suisse? Vous avez l'impression que, par cela, ça peut peut-être faire changer quelque chose en Kosovo?
Oui, certainement, puisque par l'intérieur, actuellement, il est très difficile de faire changer quelque chose, puisque l'oppression est telle que la marge de manœuvre de la population est infime. Donc on ne peut pratiquement rien faire changer par l'intérieur. Donc il faut essayer de faire pression sur l'opinion publique, l'opinion mondiale, l'ONU, pour faire prendre conscience de ce qui se passe là-bas, à 2000 km de Genève seulement. On oppresse un peuple, on tue des gens dans la rue et il ne faut pas rester indifférent. Donc cette semaine, c'est aussi pour briser l'indifférence et pour faire mieux connaître cette communauté si fermée et puis dont les gens ont un petit peu peur, ils ne veulent pas tellement se mélanger. C'est pour ça.
Sanié, vous voulez nous dire quelque chose à ce sujet? Pour vous, c'était important de participer à l'organisation de cette quinzaine?
Bien sûr, c'est ce qu'il m'a fait pousser. De ce côté-là, c'est l'indifférence de l'Europe. Donc, ils étaient, jusqu'à présent, ils étaient très, très mal, très peu informés sur tout ce qui se passe à Kosovo. Donc, on veut internationaliser un peu plus le problème de Kosovo. Donc, c'est ça, l'indifférence de l'Europe, de l'opinion du public. Elle était très, très peu informée.
Voilà, ce dossier est terminé, celui sur la femme de la Kosovo, du Kosovo. Faire mieux connaître la situation de cette région, des femmes au Kosovo, tel était notre but. Dénoncer la répression que subit la population dans cette province d'origine albanaise. Alors maintenant, vous êtes informés, vous savez peut-être un peu mieux ce qui s'y passe. Bien évidemment, il serait nécessaire de savoir ce qu'il s'y passe aujourd'hui depuis qu'a éclaté la guerre civile en Yougoslavie. Mais comme je vous le disais, nous espérons que ce sera l'objet d'une future émission. La semaine prochaine, dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, Onde Femme, comme tous les mercredis, eh bien, nous retrouverons pour notre rencontre mensuelle nos amis de la librairie L'Inédite qui nous proposent une lecture que nous avons faite toutes les trois, Annette Timmerman, Evelyne Merlar et moi-même. C'est un livre écrit par Michel Fitoussi, « Lettre à mon fils ». Publié aux éditions Calman Lévy. Et nous allons en discuter toutes les trois. Nous espérons que vous pourriez, nous avions l'espoir que peut-être vous pourriez lire ce livre et nous téléphoner et dire ce que vous en pensez pour la semaine prochaine. Et pour terminer cette émission, eh bien, je voulais vous faire entendre un dernier chant albanais d'un chœur de femmes qui parle de l'émigration albanaise en Suisse. Qui dit « Malheureuse, ma mère m'a interdit de te faire compagnie jusqu'au ruisseau, car tout le monde nous aurait vus. Jour et nuit en pleurs, je suis. Je ne t'ai pas vu quand tu es parti. Où vas-tu, malheureux ? À peine 2 mois mariés. J'ai attendu de longues années. À l'étranger, vous êtes restés. Et si vous mourrez là-bas, la terre ne vous décomposera pas. Celui qui a inventé l'émigration, que la terre refuse de le décomposer. » Alors merci Gisèle, merci Sagné. Et merci à Virginie qui est à la frontière, la pauvre, effectivement.
Merci d'avoir nous invité dans cette émission. Merci.
Merci de vous préoccuper de la femme albanaise aussi.
Oh, no.
Voilà, aujourd'hui Remue-Ménage, c'est fini. Le studio est bien rempli pour la pleine lune qui se lève avec beaucoup d'énergie. Alors je vous retrouve la semaine prochaine. Remue-Ménage, Radio Zone 93.8.